Radio Grand Ciel. Au micro, Marie-Josée Rocheron, dans le cadre de l'émission Histoire d'en savoir plus. J'ai aujourd'hui le plaisir de recevoir Christine Dupuis-Schlemmer, professeure de lettres, venue nous parler des États-Unis. Bonjour Christine.
Bonjour Marie-Josée.
Vous avez vous-même choisi le thème de notre entretien. Quel va-t-il être et pourquoi ?
Eh bien, j'ai choisi de vous parler des États-Unis. Mais les États-Unis, pas les États-Unis de New York ou de Los Angeles ou Hollywood, les États-Unis réels. Et pour cela, j'ai choisi de vous parler d'une ville, d'un territoire bien spécifique que les Français connaissent, ben, sans le connaître vraiment. Je ne vais pas vous dire tout de suite de quelle ville il s'agit, je vais plutôt vous laisser deviner.
Très bien.
Alors, j'ai choisi justement cette ville pour trois raisons distinctes. La première raison, c'est que cette ville et ses environs sont assez représentatifs de la construction des États-Unis. Parce que ce qui nous intéresse aussi, c'est l'histoire des États-Unis.
Oui, bien sûr.
Deuxièmement, parce que cette ville a d'étroites relations, et a eu d'étroites relations surtout, avec la France. Et puis, la troisième raison, elle est beaucoup plus subjective, c'est la ville où habite ma tante. Tout simplement. Ma tante, qui est une émigrante française, d'origine française, et qui est allée s'établir aux États-Unis. Elle a eu une vie très chargée, avec des anecdotes cocasses, mais aussi avec des moments beaucoup plus douloureux. Mais on ne va pas parler d'elle, ça sera peut-être le sujet d'une autre émission. Alors, je vais vous parler donc de ce territoire. Alors, ce territoire a connu, avant l'arrivée des Européens, une civilisation, une société excessivement développée. C'est une société qui était axée sur le clergé et où on avait construit non pas des pyramides comme les Aztèques et les Mayas, mais de grands tertres, des grands tumuli de pierre et surtout de terre qui étaient véhiculés à dos d'hommes. Et cette société était très hiérarchisée, avec un prêtre à leur tête, une société où on a construit un grand cadran solaire, donc évidemment avec une religion dédiée au soleil. Et cette société, ben, peu de personnes la connaissent. Si je vous dis que ça se trouve à Cahokia, et si je vous dis que Cahokia, au 11e, 12e siècle, était une ville qui était plus grande que Londres à l'époque, eh bien, ça ne vous apporte pas grand-chose.
Non, mais, réellement pas.
Non. Et si, par contre, je vous dis que cette civilisation, parce qu'on peut parler de civilisation, on l'appelle la civilisation des Mississippiens, peut-être que ça peut vous mettre un petit peu sur la voie.
Je pense peut-être à la Louisiane.
Eh bien, non. Oui, effectivement, on est sur le Mississippi. Mississippien, évidemment, on est sur le Mississippi. On est effectivement, vous avez raison Marie-Josée, on est effectivement dans la Louisiane, mais certainement pas la Louisiane à laquelle vous pensez.
Ah, alors expliquez-moi.
C'est une autre Louisiane. Alors on est sur le Mississippi, je vous rappelle que le Mississippi est un des plus longs fleuves du monde.
Oui.
Et puis que le Mississippi, s'il a été découvert par un Espagnol, il a été surtout exploré par des Français. Des Français qui sont Louis Joliette et Jacques Marquette, qui étaient des jésuites. Et puis ensuite, c'est aussi un autre Français qui a descendu ce Mississippi. Et c'était encore un jésuite qui s'appelait Cavelier de la Salle. Et il a descendu le Mississippi et il est arrivé à l'embouchure, au delta du Mississippi, en 1682. Et là, il a posé une croix. Et il a décrété que tout ce bassin mississippien allait appartenir à la France. Mmh. Donc, la France se voit à la tête d'un territoire absolument immense qui part du Canada pour rejoindre le golfe du Mexique, ça c'est du nord au sud, d'est en ouest, ça va des Rocheuses aux Appalaches. Donc, nous voilà dans notre Louisiane dont vous parliez, Marie-Josée. Alors, les Français vont s'établir, mais les Français vont s'établir surtout pour négocier, pour acheter des fourrures en particulier. Et ils ont à craindre quand même l'hégémonie des Britanniques qui sont tout près. Et donc, ils vont construire sur le fleuve et puis sur ses affluents, en particulier sur l'Ohio, des forts qui ressemblent beaucoup au fort qu'on peut connaître de l'époque de Louis XIV.
Et fort en France, absolument. Oui.
Oui. Et puis, ils vont construire. Certains de ces forts vont être évidemment repris par les Britanniques et vont donner, par exemple, le fort Duquesne, qui est un fort très, très important, va être repris par le général Pitt, vous savez, celui qui a vaincu les Français au Canada, au Québec.
Ah, oui, oui.
Et il va s'appeler le fort Pitt, et il donnera ce qui est de nos jours Pittsburgh. Un autre fort, tout près de ma ville, que j'aime bien, est excessivement bien conservé et a été restauré. Les Américains en sont très fiers. Eh bien, c'est un fort style Vauban, tout à fait. Eh bien, il s'appelle, curieuse coïncidence, il s'appelle le fort de Chartres.
Ah, oh, vraiment ? Mais comment ? Pourquoi ?
Voilà, toute une histoire. Oui. Hein. Donc, voyez que ma ville, mon territoire dont je vous parle, est quand même très lié avec l'histoire de France. Oui.
Mais cette ville.
Oui. Et notre fort de Chartres, eh bien, il va recevoir le gouvernement de la Haute-Louisiane. Mmh. Donc, si je parle de Haute-Louisiane, il y a une Basse-Louisiane. La Basse-Louisiane, évidemment, c'est la Nouvelle-Orléans. Donc là, je suis beaucoup plus loin que la Nouvelle-Orléans. Mmh. Alors, on arrive dans les années 1760, et là, ce sont des années qui ont marqué non seulement l'histoire des États-Unis, mais également l'histoire de France. L'histoire de France, comme je vous l'ai dit, et il y avait concurrence entre les Britanniques, quoi, les Anglais et les Français, et malheureusement, les Français ont été complètement défaits et ont été obligés de signer le traité de Versailles qui leur retirait toutes leurs possessions en Amérique du Nord. Donc, adieu le Québec, adieu la Louisiane française, qui est séparée en deux. À l'ouest du Mississippi, ça devient colonie espagnole. À l'est, ça devient colonie anglaise. Mais nous avions déjà des familles qui étaient installées le long de ce Mississippi. Et les familles françaises, d'origine française, ne voulaient absolument pas devenir anglaises. Pour la bonne raison, c'est qu'ils ne voulaient pouvoir conserver leur religion catholique. Donc, ils sont passés de l'autre côté du Mississippi. Ils sont allés sur la rive ouest du Mississippi. Et ils ont commencé à fonder des fermes, des petites villes, etc., etc. Et toujours du négoce de fourrure. Et là, ce négoce de fourrure a pris une telle ampleur que des négociants riches de la Nouvelle-Orléans ont eu l'idée de venir établir un comptoir de fourrure au confluent du Mississippi et du Missouri. Missouri, c'est un affluent qui est très long. Il va se prolonger au nord et à l'ouest sur des milliers de kilomètres. Et donc, ça permettait justement de transporter ces fourrures et ça permettait aux trappeurs, aux coureurs des bois, comme on disait à l'époque, de pouvoir apporter leurs fourrures. Et donc, on a nos deux négociants, qui sont Pierre Laclède et son jeune beau-fils, Auguste Chouteau, qui vont installer donc leur comptoir. Et le comptoir va prospérer. Va arriver d'autres négociants, vont s'installer des artisans, vont s'installer des fermiers. Et puis, il va falloir mettre des structures, des infrastructures, surtout des infrastructures religieuses. Donc, on va fonder une cathédrale, une église d'abord, puis une cathédrale.
Et la ville, c'est Saint-Louis ?
Eh bien oui, du nom de la cathédrale.
Voilà.
Du nom de la cathédrale, puisque nous sommes dans une société d'émigrants d'origine française, ou créole en tous les cas, et puis évidemment, ils vont dédier leur église à Louis IX, Saint-Louis. Voilà. Et donc ce comptoir va devenir la ville de Saint-Louis.
Voilà.
Voyez. Donc je suis en plein milieu des États-Unis. Et cette ville de Saint-Louis va devenir, après, le centre de la Louisiane. Et donc, la capitale de la Louisiane. Alors, ce qu'il faut aussi dire, c'est que cette Louisiane, elle a quand même, on l'a vu, elle a été française, elle va devenir à moitié anglaise, à moitié espagnole. Et entre les deux, eh bien, on a les 13 colonies qui vont se révolter contre la férule britannique et qui vont avoir leur indépendance. Au passage, je fais simplement remarquer qu'ils ont quand même été aussi aidés par un Français très célèbre, non seulement parce qu'il avait des idées militaire et que là, les insurgents, comme on les appelait, eh bien, eux ne savaient pas du tout comment se battre, mais il était aussi richissime. C'est Gilbert de Lafayette, tout bêtement, qui a beaucoup aidé à l'indépendance des États-Unis. Donc, nos 13 colonies vont avoir leur indépendance et en 1783, et ça sera un autre traité de Paris qui va leur donner leur indépendance. Chez nous, en France, eh bien, on est après la Révolution. Et on a un jeune général qui s'appelle Bonaparte et qui est très ambitieux. Et après le coup d'État du 18 Brumaire, eh bien, il a des grands projets pour cette ancienne Louisiane française. Cette Louisiane française, parce qu'elle est revenue française en 1800. Et il y avait effectivement des clauses du premier traité de Paris qui n'avait pas été respecté, si bien que Bonaparte a demandé la restitution de ce vaste territoire, qu'il a obtenu. Mais ce vaste territoire était très peu peuplé, parce que les Français, comme je vous l'ai dit, c'était avant tout des négociants. C'était des gens qui faisaient du commerce. Ils ne s'installaient pas, à la différence des émigrants britanniques qui, eux, s'installaient. Et donc, ce territoire peu peuplé, mal ravitaillé, mal structuré, il était impossible qu'on le gardât au sein de la France comme colonie française. Donc Bonaparte a eu la grande idée de dire, bon, puisque cette colonie ne peut rien nous rapporter, qu'à cela ne tienne, elle va nous rapporter quand même, on va la vendre à ces nouveaux États-Unis. Donc il va faire la proposition à Jefferson.
Ah oui, c'était cette époque-là, oui.
Oui, c'est l'époque de Jefferson, au début des États-Unis.
Ah oui.
Donc, Jefferson va présenter ça à l'Assemblée, ces nouveaux États-Unis, qui vont être excessivement sceptiques. D'abord parce que le prix leur paraît absolument astronomique. 28 millions de francs or, c'était énorme. Deuxièmement, c'est une autre question, c'est qu'ils avaient peur de perdre leur identité. Ils doublaient leur superficie. Ils étaient obligés d'englober des populations qui n'avaient pas les mêmes origines que celles des 13 colonies, puisque nous avons des créoles, nous avons des Irlandais, nous avons des Espagnols, nous avons des Français. Donc nous, on est loin de l'immigration, entre guillemets, puritaine, britannique, qui avait peuplé les 13 colonies. Donc, c'était assez difficile pour Jefferson de faire valoir son point de vue. Mais il l'a fait, et la France a vendu donc son vaste territoire de la Louisiane en 1803, et ça a été effectif en 1804. Et donc là, la Louisiane devient américaine, et les États-Unis doublent leur surface. Donc là, je suis sur une ville qui est au confluent du Mississippi et du Missouri, et c'est une ville qui va être une ville frontière. Parce que de l'autre côté du Mississippi, eh bien, on ne sait pas du tout ce qu'il y a. Et donc, Jefferson va envoyer une expédition qui s'appelle l'expédition Lewis and Clark, reconnaître ce vaste territoire que les États-Unis viennent d'acquérir. Ils cherchaient à savoir comment il était peuplé, comment il était peuplé, quels étaient également les animaux, quelles étaient également les tribus amérindiennes, et également quelles pouvaient être les voies de communication. En particulier, ils cherchaient une route pour pouvoir accéder au Pacifique. Route qu'ils vont trouver en remontant le Missouri et la rivière Columbia jusqu'au Pacifique. Alors cette expédition, Lewis and Clark, elle était pas une grosse expédition parce qu'ils étaient 45 hommes seulement.
Ah bon, parce qu'on parle toujours de cette expédition, Lewis and Clark.
Et moi, ben non, ils étaient que 45 hommes, c'est pas quelque chose de très important. C'est avec les moyens du bord. Bon, il faut pas oublier qu'à cette époque-là, c'était vraiment sauvage. C'était vraiment quelque chose qu'on ne connaissait pas, un monde absolument inconnu. Donc, cette expédition, 45 hommes et des Français parmi eux, des coureurs des bois, toujours nos fameux trappeurs.
Oui.
Pour la bonne raison, c'est que ces Français qui avaient l'habitude de négocier les fourrures avec les Amérindiens, eh bien, ils parlaient les dialectes et les langues des Amérindiens. Et donc, on savait très bien qu'ils allaient rencontrer des tribus amérindiennes, et donc, il fallait faire ami-ami avec elles. Et donc, il fallait donc pouvoir parler leur langue. C'est pour cela qu'on a amené des Français avec eux. Et ça leur aurait assez réussi, parce qu'ils ont pu effectivement se ravitailler, avoir des chevaux auprès de tribus rencontrées en cours de route. Alors, ils ont mis 2 ans, et ils sont après rentrés à Saint-Louis avec des quantités de planches, d'observation, et l'idée donc que ce territoire finalement n'était pas une si mauvaise acquisition. Mais revenons, nous sommes au 19e siècle, on va revenir, c'est le 19e siècle, c'est l'âge d'or de Saint-Louis. Je vous ai dit que c'était la porte de l'Ouest. C'est-à-dire que si on voulait coloniser toute la rive ouest du Mississippi, eh bien, il fallait passer par Saint-Louis. Et c'était la seule ville, je dirais, civilisée. C'était l'endroit où on pouvait acheter des chariots, des fers à chevaux, des haches, des pelles, des souliers, des tentes, de la toile, etc., etc. Donc vous voyez une ville qui, avec tous ces émigrants qui voulaient s'installer à l'ouest, qui va évidemment prospérer. Et prospérer de façon absolument extraordinaire. Parce que on va voir pendant ce 19e siècle une population qui va vraiment croître. Si je vous dis qu'en 1830, il y avait 5800 habitants, à l'époque c'était énorme, mais qu'en 1850, il y en avait 77 000.
Oh mon Dieu, c'est fou.
Vous voyez que c'est une ville qui est quand même une ville absolument majeure.
Ah, oui.
Et elle a également connu son développement grâce au bateau à vapeur. Bateau à vapeur qui va permettre de remonter cet axe de communication qu'est le Mississippi, axe qui fait nord-sud, et donc de joindre la Nouvelle-Orléans avec Saint-Louis, et de Saint-Louis, si on remonte l'Ohio, etc., on peut rejoindre la région des Grands Lacs, et donc toute la côte est. Donc c'était quelque chose de très, très important. Et justement, au milieu de ce 19e siècle, Saint-Louis s'est tellement développé que c'est devenu la 4e ville des États-Unis.
Ah, c'est quand même la 4e ville des États-Unis ?
Ben oui, la 4e ville des États-Unis. Et vous savez quelles étaient les 3 autres villes des États-Unis ?
Non.
Eh bien non, mais je vais vous le dire. Eh bien, la première ville, évidemment, c'est New York. New York, c'est le grand port. La 2e ville, c'est l'ancienne capitale des nouveaux États-Unis. Eh bien, c'est Philadelphie. Et la 3e ville, c'est la grande concurrente de Saint-Louis, c'est Chicago. Vous voyez, la côte ouest, Los Angeles, San Francisco, la Californie, n'est pas développée.
Ah oui.
C'est intéressant.
Oui.
Donc, Saint-Louis va tellement être dynamique que va être fondée la première université à l'ouest du Mississippi dès 1832. Et cela grâce encore aux jésuites. Et puis un peu plus tard, en 1842, il y a une autre université qui s'appelle Washington, qui va être fondée par un monsieur qui s'appelle William Eliot. Peut-être que le mot d'Eliot vous dit quelque chose. Si je vous parle de T.S. Eliot.
Ah oui, absolument.
Meurtre dans la cathédrale, etc.
Voilà.
Eh bien, T.S. Eliot est né à Saint-Louis.
Ah bah oui.
Parmi d'autres. Mm-hmm. Bon, et puis un peu plus tard, on va créer des écoles publiques. Auparavant, on avait pensé au divertissement parce qu'on avait créé des théâtres. On va, l'État, depuis 1821, est rentré dans la fédération américaine. Et c'est un État esclavagiste, même s'il est relativement au nord. C'est un État qui appartient donc au sud, théoriquement, puisqu'il est esclavagiste. Et cela, c'est en vertu du compromis du Missouri. Quand on faisait rentrer dans l'État fédéral un État libre, on pouvait faire rentrer un État esclavagiste. Donc on a fait rentrer l'État du Maine en même temps que celui du Missouri.
Tout à fait à l'est.
Complètement à l'est. Le Maine, la frontière canadienne.
Oui.
C'est un tout petit État.
Oui.
Je crois même qu'on l'a créé exprès pour faire... pouvoir admettre
le
Missouri.
Oui, parce qu'il est très peu important dimension.
Oui. Donc, État esclavagiste, qui dit esclavagiste, dit esclave. Évidemment, il y avait des esclaves à Saint-Louis. Mais on est loin des grandes plantations de temps de l'emporte-le-vent. Les esclaves de Saint-Louis, c'était des domestiques, c'était des dockers, c'était des artisans, c'était aussi des membres d'équipage sur nos fameux bateaux qui remontaient ou descendaient le Mississippi. Et puis, Saint-Louis va évidemment connaître, comme tous les autres États américains, les États du Sud, la guerre de sécession. Mais Saint-Louis va être très partagé. D'un côté, va adhérer à la Confédération des États du Sud. Et puis, d'un autre côté, il y a une large part de la population qui va plutôt être pour le Nord. Si bien que si Saint-Louis, l'activité de Saint-Louis a été ralentie pendant cette guerre de sécession, eh bien, la ville n'a pas été ravagée comme tous les autres États du Sud. Ah. Si bien qu'elle va pâtir, évidemment, de cette guerre de sécession, mais elle va pouvoir s'en relever assez facilement. D'autant plus facilement qu'on va avoir une nouvelle vague d'émigration, une vague d'émigration qui vient d'Allemagne. Jusqu'à présent, les émigrants étaient des créoles, c'est-à-dire des gens qui venaient de la Nouvelle-Orléans et puis des Antilles, et aussi des Irlandais. Je vous ai parlé des catholiques, évidemment. Là, on va avoir une forte immigration allemande. Et qui dit immigration allemande, eh bien, on va avoir une façon de vivre différente. Et nos Allemands vont s'installer et vont également installer des premières usines, des premières manufactures, et vont apporter avec eux également la bière. Et c'est à cette époque-là que vont être créées une multitude de brasseries, mais aussi de distilleries, et que Saint-Louis va devenir une ville très importante grâce à l'alcool. Et justement, la bière et l'alcool vont changer un petit peu le cours de l'histoire américaine.
À ce point-là.
Parce que un enfant de Saint-Louis, c'est Ulysses Grant. Ulysses Grant.
Ah oui.
Oui, le général Nord, les nordistes, auquel s'est rendu le général Lee, était de Saint-Louis. Et Ulysses Grant demande devenir président des États-Unis. Donc il fait toute une campagne.
Oui.
Et vous savez que les présidents américains ne sont pas élus au suffrage direct.
Ah,
donc on élit des grands électeurs
après, etc.
Et là, il était question, très très question, de mettre des taxes sur l'alcool, sur le vin, sur la bière.
Mmh.
Donc vous pensez que nos brasseurs, nos distillateurs de Saint-Louis n'étaient pas du tout contents. Donc ils ont fait pression sur Ulysses Grant, qui a promis que s'il était élu, eh bien, évidemment, il retirerait toutes les taxes. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que nos brasseurs, nos distilleurs, eh bien, ils ont tout simplement graissé la patte un petit peu des grands électeurs. Si bien qu'Ulysses Grant a été élu. Il a retiré toutes les taxes, pas de problème.
Ah.
Il se représente en 1875. Et donc, on va recommencer à essayer de corrompre les grands électeurs. Mais là, manque de chance. Ils sont découverts. Et là, un scandale énorme va retentir dans tout le pays. On va se moquer d'Ulysses Grant, mais qui est quand même élu. Et mais il va être obligé de remettre les taxes. Et donc là, on va arriver à la fin du 19e siècle, qui est marqué par des innovations. On est obligé de transformer le centre-ville. Parce que le centre-ville, je vous ai parlé de manufactures, d'industries, de brasseries, de distilleries. Je ne vous ai pas parlé des autres industries. Il y avait de la peinture, des briqueteries, il y avait des industries, le début des industries chimiques, également des abattoirs. Tout cela était très, très pollué. Donc, on décide d'assainir un petit peu le centre-ville, de faire des égouts, d'apporter de l'eau courante, etc. Et donc, de raser tous les quartiers insalubres.
Ah là là.
Et on va faire des rues bien d'équerre, bien comme toutes les villes américaines, bien au carré, et on va construire donc des nouveaux bâtiments.
Bien organisés, bien...
Ah oui, bien organisés.
Bien pensés.
Voilà. Et très pensés, donc un urbanisme, et on va justement inaugurer... On va inaugurer le premier gratte-ciel du monde.
Ah bon, c'est
premier gratte-ciel du monde, c'est assez extraordinaire.
Oui.
Pensez, Marie-Josée, il avait 10 étages de haut.
Ah oui.
Là, on a évidemment, mais c'est un gratte-ciel qui existe toujours, mais il a l'apparence des gratte-ciel tels qu'on les retrouve maintenant dans toutes les villes. C'est-à-dire que c'est un bâtiment qui a une armature en fer, recouvert de pierre, avec d'ailleurs de très jolies décorations, avec la citerne au-dessus, et puis par en dessous, évidemment, les boutiques. tel qu'on retrouvait, mais qui n'était jusque-là pas connu. Donc là, je suis en 1880.
Il subsiste toujours, ce
gratte-ciel. Oui. C'est le Wainwright. Non, on le voit de l'extérieur.
Il a
été restauré, évidemment. Ouais. Et son architecte, c'est Sullivan, qui appartient à l'école d'architecture de Chicago, qui était très, très connue. Donc ça, j'arrive à la fin du 19e siècle, au début du 20e siècle. Et alors là, le début du 20e siècle, il va être marqué par de grands événements. De grands événements, ce sont les troisièmes Jeux olympiques. Les troisièmes Jeux olympiques, vont... Nous, on ne s'en souvient pas du tout. Avant, il y a eu les Jeux olympiques d'Athènes et ceux de Paris. Et les troisièmes Jeux olympiques, vont être marqués parce que rien n'était vraiment très organisé. Il va y avoir le marathon avec des tricheries. Il va y avoir par exemple, le premier du marathon qui va arriver, mais qui n'a pas fait 9 km dans la voiture de son entraîneur. On va avoir aussi un autre qui était dopé, je dirais, à la strychnine. On va avoir aussi des athlètes qui vont s'endormir pendant la course, d'autres qui vont être poursuivis par un chien, etc., etc. Malheureusement, je vois que le temps imparti qui nous reste est très court, que j'ai beaucoup trop parlé, comme d'habitude.
Ah non, c'était très intéressant.
Je ne vais pas pouvoir vous raconter toutes les anecdotes que j'avais couchées sur le papier, mais je voudrais simplement rendre un hommage à une habitante de Saint-Louis. C'est la première qui a inventé la cocktail party. En 1919, on savait le mot cocktail, il vient du mot français coquetier, évidemment, il vient de la Nouvelle-Orléans, et jusqu'à présent, c'était quelque chose que l'on buvait après le repas. Là, elle l'a servi, Madame Julius Walsh l'a servi en apéritif bien avant le dîner. Je pourrais aussi vous parler d'un émigrant d'origine anglaise qui a sauvé le vignoble français.
Ah, mais encore.
Au 19e siècle, vous avez dû entendre parler du phylloxéra.
Oui.
Et ce chercheur a découvert...
Mettez-vous bien.
Et ce chercheur a découvert, justement, l'insecte qui était la cause des ravages de nos vignes. Et il a découvert également que les cèpes américains, eux, n'étaient pas touchés par l'insecte. Et donc, il a eu l'idée de greffer des cèpes français avec des cèpes américains. Si bien que dans les années 1860, il y a eu des millions de greffons américains qui sont partis pour la France, au point que ce chercheur, qui s'appelle Riley, a été décoré de la Légion d'honneur. Malheureusement, ça ne lui a pas porté bonheur parce qu'il s'est tué dans un accident de bicyclette peu de temps après. Alors, grand hommage quand même à quelqu'un qui est né à Saint-Louis. Quelqu'un qui était... Sa mère était noire, son père était blanc, elle a été mariée à 13 ans, elle s'est remariée à 21 ans. Elle avait des quantités de déclarations d'amour et elle se promenait dans tout Paris avec un léopard ou un cygne en laisse. Elle avait des amis qui étaient fort connus et je veux vous parler de Joséphine Baker. Joséphine Baker, comme beaucoup d'autres personnalités, sont nées à Saint-Louis. Donc, un petit peu comme elle, j'ai deux amours, mon pays est Saint-Louis.
Bien, merci Christine pour ce passionnant voyage dans lequel vous nous avez entraînés aujourd'hui. Alors, je dirais peut-être bon voyage à nos auditeurs que vous aurez encouragés à partir et surtout en prévoyant une halte assez longue à Saint-Louis, Missouri.
Amour, mon pays est Paris, toujours mon cœur est ravi, ma savane est belle.